Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 28 février 1991.
Peut-on préciser en philosophie du vivant s'il y a une distinction entre intellect possible et intellect passif? Saint Thomas, dans le Contra Gentiles, semble en effet reprendre cette distinction d'Averroès à son compte, au chapitre 60 du livre 2. Oui, alors je n'entre pas trop là-dedans. C'est intéressant, mais je crois que ça n'a pas grand intérêt. Vous voyez, parce que c'est Averroès. Et Averroès, vous savez bien, on est sous l'influence d'un intellect séparé. On est instrument. Et dans la mesure où on reçoit cette influence, on pense. Et donc la pensée n'est plus personnelle et individuelle. Elle est en dépendance de l'intellect séparé. L'intellect agent. Alors il y a des degrés différents. Et la passivité première se fait au niveau de l'image. D'où intellect possible, passif. Intellect possible, celui qui vraiment pense. Saint Thomas reprendra ça beaucoup plus dans la somme par le point de vue d'une distinction beaucoup plus nette entre le domaine de la connaissance sensible dont le sommet est l'icône, l'image. Et c'est sur l'image que l'intellect agent va agir pour déterminer l'intellect possible. Donc, réfléchissez sur l'intellect possible et pas sur l'intellect passif. Vous comprenez comment l'image pâtit par l'intellect actif, par l'intellect agent. En vue de l'intellect possible qui reçoit la détermination. Mais il n'y a pas trois intellects. Il n'y en a que deux. Deux fonctions. Alors, au fond, c'est plus le lien entre l'intellect possible et l'imagination qui pourrait permettre de parler de l'intellect passif. Je crois qu'il ne faut pas trop employer ce langage. Oui, c'est dans le Contra Gentiles. Il y a des choses dans le Contra Gentiles qu'on laisse tomber. Il ne faut pas vouloir assumer absolument tout le Contra Gentiles. C'est extrêmement intéressant l'intellect. Le Contra Gentiles comme la zone intermédiaire de la pensée de Saint Thomas. Qu'est-ce que l'immanence? Ça vous mettrait toute votre vie à penser à ça. Est-elle un mouvement? Non. Pourquoi la vie est immanente? Ah, oui, c'est une conséquence de la vie, ça, en opposition avec ce que représente le monde physique. Dans le monde physique, il n'y a pas d'immanence. Il n'y a que du bruit. Pas d'immanence, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de rythme au sens propre, il n'y a pas de repos. Le repos vient avec la vie. Seul le vivant se repose. C'est pour ça que vous aimez tellement de vous reposer. Parce qu'en vous reposant, vous êtes un vivant. Dans le monde physique, il n'y a pas de repos. Il y a la relativité absolue. Dans le monde physique, il y a la juxtaposition. Il y a l'extériorité du monde quantitatif. On ajoute les choses extérieures les unes aux autres. L'immanence, c'est le vivant qui est immanent. Et la première expérience que je fais de l'immanence, c'est par la première opération vitale, l'assimilation. L'assimilation a comme condition sine qua non l'immanence. Puisque l'alpha et l'oméga reviennent. Vous avez une expérience de l'immanence quand vous êtes obligé de faire du surplace au régiment. Battez la mission sur place. Le pauvre troupier qui est là. Pas s'endormir. Vous voyez ces pauvres gens qui sont là à la porte de telle ambassade. Qui passent la nuit dehors. Ils ont froid. Ils risquent de venir complètement figés. Alors, ils tapent sur le sol. Se réveiller. C'est une sorte de caricature de l'immanence. Du surplace, oui, c'est sur place. L'alpha et l'oméga se tiennent. Dans l'opération d'assimilation, c'est ce qui se passe. Le terme et le point de départ sont présents. Vous avez assimilé. Le vivant assimile. Le non-vivant juxtapose. Phénomène d'assimilation. Le petit morceau de pain du matin est extérieur à vous. Vous le prenez dans la corbeille. Et à la fin du petit déjeuner, où est-ce qu'il est ? Il n'y a pas de douane pour le vivant. Il l'a mangé. Vous avez le droit de passer la douane avec le bon repas que vous avez pris, le vin que vous avez pris. Pas de danger. Tandis que vous aviez pris la bouteille avec vous à côté de vous. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tandis qu'au contraire, je l'ai mangé. Ne faites pas ça pour des perles ou des broches. Ou des bagues, ou de la monnaie. Vous ne pouvez pas l'assimiler. Inassimilable. Un sapé la douane. Juxtaposition. C'est très très curieux ça. Le vivant assimile. Et il ne peut assimiler que dans l'immanence. Alors l'immanence n'est pas un mouvement, n'est pas une opération, mais l'opération exige l'immanence, l'opération vitale. Toute opération vitale exige l'immanence. La durée du vivant exige l'immanence. L'assimilation du vivant exige l'immanence. L'appréhension exige l'immanence. Condition sine qua non. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Cette condition sine qua non, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le dépassement de la quantité. La quantité implique une juxtaposition. Tandis que l'immanence est au-delà de ça. Alors il faut arriver petit à petit, par des quantités d'exemples, arriver à comprendre ce que c'est que l'immanence. Condition sine qua non pour l'opération vitale. Voyez, quand vous dites que l'âme informe le corps selon un mode indivisible, est-ce que l'âme, votre âme est au bout de votre petit doigt ? Elle est quand même présente dans votre petit doigt. Et quand on vous pince votre petit doigt, vous dites « Oh, j'ai mal à mon âme !» Est-ce que vous avez mal à votre âme ? Non. Mais votre quantité ne peut pas s'étendre comme elle veut. La réfréner. Il faut le faire parce que c'est un vivant. Il y a une souplesse. C'est pas de la pierre. Vous devez changer votre cœur, qui est dur comme de la pierre, en un cœur de chair. non assimilées. Et ça, c'est le refoulement. Toutes les choses non assimilées et non éjectées, c'est le refoulement qui empoisonne. Et alors, tout à coup, c'est un volcan, c'est jailli de tout sens. Vous préparez les volcans comme ça, par le refoulement. Alors, voyez comment le vivant et le refoulement me permettraient de comprendre ce que c'est que l'assimilation. presse. Il me pressa. Cette forme intentionnelle, species, qui vient de eidos, donc traduisons forme. La forme, il me pressa, celle qui s'imprime dans l'intellect au possible. Simple, il y a la dualité du jugement. Le jugement est double. Le jugement est complexe. Il n'est pas premier. Il est complexe. Il est complexe et donc il est affirmatif. Il implique la composition. Il est négatif. Il implique la division.
Intelligible.
l'imagination implique quelque chose de plus. Le nom. La négation présuppose l'affirmation « ceci est » pour dire ensuite « ceci n'est pas ». On ne peut pas nier ça, hein. C'est gros, gros, gros. Or, le langage est signe de ma vie intellectuelle. Mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est un cas signe. Comment puis-je découvrir, au plan critique, que l'affirmation est première et que la négation est seconde? Suppose l'amour. ceci n'est pas. Je prends exprès l'affirmation la plus simple pour que rien n'échappe. Mais... Et si vous avez compris, primo caditi intellectus ens, c'est nécessairement ens ce qui est l'affirmation qui est première. Vous ne dites pas primo caditi intellectus non ens. Comment pourriez-vous dire en premier lieu ce qui tombe dans l'intelligence et le non-être? C'est ce qu'affirme Heidegger. Très, très curieux. Il ne le dit pas, hein. C'est moi qui l'interprète. Et quand vous lisez un livre de philosophie, demandez-vous tout de suite si pour l'auteur, il y a l'ordre entre l'affirmation et la négation. Parce que là, vous classez tout de suite deux mondes. Le monde qui s'enracine dans une philosophie réaliste et le monde qui s'enracine dans une philosophie idéaliste. La philosophie idéaliste, c'est la philosophie du primat de la négation. Alors, c'est ce qu'on va voir. Et pour moi, c'est capital, ça. C'est très, très important de saisir ça. Pourquoi l'affirmation du primat de la négation? Pourquoi on est arrivé à cela? Alors, je pose la question d'abord. Pourquoi j'ai le besoin de dire ceci est et la négation ceci n'est pas? Pourquoi l'intelligence humaine a-t-elle eu le besoin de réaliser la négation? La négation est un être de raison. C'est l'intelligence qui a formé la négation. La négation n'existe pas dans la réalité. Pourquoi l'intelligence a-t-elle eu besoin d'affirmer la négation? Je crois que dans toutes les langues, il y a affirmation et négation, je crois. Dans toutes les langues. Alors c'est intéressant parce que ça montre que c'est une structure d'intelligence. C'est pas seulement des mauvais coucheurs. Je trouvais ça que dans les langues des mauvais coucheurs, il y aurait la négation. Non, mais je crois que c'est une structure d'intelligence. Alors pourquoi mon intelligence a-t-elle besoin de créer la négation? À cause de ma manière de connaître. C'est que je connais d'une manière abstractive. Je reviens à l'appréhension. Si il n'y avait pas d'appréhension, élément de ma vie intellectuelle, je n'aurais pas besoin de la négation. La négation, c'est donc parce que mon intelligence n'est pas le reflet du réel. Garotti dit que l'intelligence est le reflet du réel en tant que marxiste. C'est parce que mon intelligence n'est pas le reflet du réel, mais que mon intelligence a besoin d'abstraire. D'abstraire grâce à l'intellect agent. D'abstraire la forme intentionnelle de l'image. C'est parce que mon intelligence a besoin d'abstraire que mon intelligence corrige l'abstraction par la négation. Ça. Si mon intelligence était intuitive, parfaitement intuitive, était le reflet du réel, si mon intelligence était comme un ruisseau d'eau qui reflète tout ce qui est autour du ruisseau, quand vous arrivez à Paris-Monial, vous passez au-dessus du petit ruisseau. il y a une interrogation. Est-ce que ceci est ou est-ce que ceci n'est pas? L'interrogation du non-être est première à l'affirmation de la négation. Et je dis bien l'affirmation de la négation. Le non-être apparaît d'abord dans l'interrogation, comme une hypothèse. Et on comprend très bien, puisque le non-être n'existe pas, il ne peut pas exister d'abord dans l'affirmation. Il existe d'abord dans l'hypothèse. Est-ce que cela est ou est-ce que cela n'est pas? Est-ce que ceci existe ou est-ce que ceci n'existe pas? Puisque c'est le fruit de l'intelligence, un être de raison. Il existe donc d'abord sous forme hypothétique. Et vous vous demandez si le ceci que vous avez abstrait, cette vache, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'elle est ou elle n'est pas? La montagne d'or. Vous avez composé en vous, intuitivement. J'ai eu l'intuition de montagne d'or. Dans mon rêve, j'ai eu l'intuition de montagne d'or. Ce petit pays, il a de l'or, toute sa richesse, toute son exploitation. Tout le monde court là, parce qu'il y a des montagnes d'or. Vous voyez ? Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? L'hypothèse. Où? Et j'affirme, ceci est, ceci n'est pas. Vous répondez à une interrogation. Ceci est, ceci n'est pas. Pour répondre à l'interrogation, vous avez pris l'hypothèse. Le non-être est donc toujours posé hypothétiquement. Toujours. Puisque c'est un être de raison. Il est posé hypothétiquement à cause de l'abstraction. S'il n'y avait pas d'abstraction, il n'y aurait pas cette hypothèse. Je serais le reflet du réel. Et si je suis le reflet du réel, je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir si ça existe ou si ça n'existe pas. Parce que le reflet du réel montre que ça existe. L'intelligence n'est pas le reflet du réel parce qu'il y a l'appréhension. Et je saisis d'abord les choses d'une manière abstractive. Je saisis d'abord l'acuité des choses. Je n'ai pas la saisie globale, immédiate. J'ai une saisie quasi intuitive du début, mais d'une façon abstractive. Et je me pose la question, est-ce que cette forme que je connais, est-ce qu'elle existe, qu'elle n'existe pas? Et je réponds, ceci est ou ceci n'est pas. En m'affrontant au réel. Donc vous voyez par le fait même que la négation, elle naît d'une alternative, ceci ou ceci n'est pas. Il faut donc d'abord le ceci est, pour que le ceci n'est pas n'existe pas, puisse exister. Donc la négation est nécessairement